Vous avez entendu ce premier texte de la lettre aux Hébreux. Après deux ou trois versets très denses, il cite en exemple plusieurs témoins bibliques. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Nous n'avons là qu'un seul verset et pourtant, on pourrait dire qu'il résume un peu le cœur de notre engagement, le cœur de notre confiance. Ce verset, à lui seul, aborde le thème délicat, sujet de bien de discussion tout au long de l'histoire et dans l'Église, sujet essentiel pour chacun de nous, la foi. Hier, nous nous sommes réunis avec le groupe de jeunes et nous avons partagé autour de ce thème. Quelle est ma relation à Dieu? Comment je me sens avec Dieu? La foi, nous dit l'auteur, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. En grec, vous le savez, la langue première du Nouveau Testament, le mot « foi » signifie la confiance. La foi, c'est donc la confiance et non pas la croyance. La foi, c'est croire en des choses immatérielles, volatiles, impalpables. Pourtant, nos vies à tous sont faites, construites, agrémentées de choses matérielles. Une maison, un travail, une voiture, des activités sportives, une famille et des amis. Pourtant, nous le savons, dans chaque être humain, et pas seulement chez les personnes croyantes, il y a aussi cet immatériel qui façonne la vie. Il n'y a qu'à voir dans les titres de magazines le nombre de thématiques autour de la recherche de bien-être, de savoir se retrouver, de savoir être connecté à l'essentiel. Oui, que nous soyons croyants ou non, le simple amour, par exemple, qui nous unit à nos parents, à notre conjoint ou à nos enfants ou à nos amis, ce simple amour fait partie des choses non palpables de la vie et qui pourtant, et là nous sommes tous d'accord, tiennent une place essentielle. L'auteur de la lettre aux Hébreux, que nous ne connaissons pas d'ailleurs, ce n'est pas Paul qui a écrit a priori cette lettre, l'auteur reste mystérieux. Cet auteur nous parle de tous ces témoins de foi, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah. Alors, Agathe, dans sa famille, doit aussi entendre parler de ces témoins par les petits livres que vous avez pour elle quand vous en parlez ensemble en famille. La liste pourrait continuer avec d'autres témoins bibliques, bien sûr, Moïse, Samuel, Ésaïe, David, Matthieu, Marc, Paul et encore tellement d'autres. Dans le cours de l'histoire, les témoins ne se sont pas arrêtés. Il y en a bien sûr tout un tas. Augustin, Martin Luther King, Sœur Teresa, l'abbé Pierre, nous pourrions encore en citer de nombreux. Au dernier week-end de catéchèse, il y a 2 semaines, nous avons parlé de ce thème. « Qui est pour toi, nous avons demandé aux jeunes, un témoin de foi ? Qui dans ton entourage te parle de Dieu ? Ou qui te semble rayonner de l'amour du Père ?» Il y a tous ces gens connus, mais il y a aussi tant d'autres, des personnes anonymes, des proches, qui décident dans leur vie de faire confiance et qui, par leur présence, par leur témoignage, nous parlent de Dieu. C'est l'expérience que nous vivons avec les plus jeunes, avec les plus âgés aussi, mais nous en sommes toujours plus surpris avec les jeunes. Hier soir, au groupe de jeunes, un des jeunes garçons d'une 20aine d'années a témoigné d'une parole très forte de situation de sa vie par rapport à Dieu. Et il nous a tous bluffés, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un mot très, très correct. Il nous a tous impressionnés, il nous a touchés. On a senti tous dans cette parole que Dieu était bien présent dans sa vie. Car la foi, en effet, ne se mesure pas à l'extérieur, ne se mesure pas par le physique de quelqu'un, ni même par ce qu'il dit forcément. Et surtout, elle ne peut pas être jugée. Elle ne peut pas être mesurée par un autre. La foi, c'est une rencontre, c'est une étincelle, c'est un élan, c'est une prise, un combat parfois, avec le Dieu de Jésus-Christ qui, par son esprit, nous appelle à nous bousculer, à lui faire de la place. La petite histoire que vous avez entendue dans l'évangile de Luc racontée par Jésus est pleine d'enseignements. Vous l'avez compris, il y a un pharisien d'un côté qui prie dans le temple. Un pharisien, c'est-à-dire un juif pratiquant. Il va se mettre en avant et dans ses paroles, il va se trouver fort satisfait de sa situation en critiquant même les autres. Et puis, il y a au fond du temple un employé des impôts. Alors, vous le savez peut-être, à l'époque de Jésus, être employé des impôts, c'était vraiment une catastrophe puisqu'il fallait prendre l'argent pour le donner à l'occupant romain, n'est-ce pas ? Donc, ce n'était pas l'employé des impôts d'aujourd'hui. Hein. C'était les employés des impôts au temps de Jésus étaient des personnes rejetées et énormément critiquées. Eh bien, lui, il est mal à l'aise. Il n'ose même pas regarder vers le ciel. Et il demande à Dieu dans son cœur pardon. Jésus dit à la fin de l'histoire que c'est lui qui a trouvé la bonne voie, que c'est lui qui est le juste. Il a choisi la bonne attitude. Alors qu'est-ce que c'est cette bonne attitude ? Ce n'est pas d'être un bon pratiquant ou un non-pratiquant. C'est simplement d'être dans la vérité, dans l'humilité du cœur, dans la sincérité entre Dieu et moi. Je crois que pour nous, ce matin, communauté, et pour vous aussi, la famille d'Agathe, qui vous retrouvez dans ce temple pour les baptêmes des enfants, cette histoire biblique est un double appel. Du côté de notre communauté, nous entendons que la foi de chacun est une affaire de cœur et que nous ne pouvons pas contraindre quiconque à venir au culte, à venir à la catéchèse, sous prétexte que oui, c'est bien ici qu'il faut vivre sa foi. Alors nous continuons à inviter, à garder nos portes grandes ouvertes. Nous continuons à annoncer que cette parole est une parole qui libère et qui n'enferme pas, qui annonce l'amour mais qui ne contraint pas. De votre côté, famille d'Agathe, cette histoire de Jésus est aussi un appel. Dans vos engagements professionnels, sportifs, familiaux et amicaux, il est juste et bon de préserver une place pour la vie du cœur, entre vous bien sûr, mais aussi avec ceux que vous aimez et avec ce Dieu qui vous cherche et qui est près de vous. Gardez des temps nécessaires à l'écoute et à la prière. Cherchez toujours les chemins de paix et de confiance. Essayez d'écouter ce Dieu bienveillant qui vous aime et veut vous guider vers la vie. En communauté, nous vivons de ce que nous ne voyons pas, de la foi. Mais au quotidien, nous fonctionnons bien sûr avec du bien visible. Des locaux à entretenir, du matériel, de l'argent donné pour que notre vie d'église perdure. Ce matin, avec vous, famille d'Agathe, nous partageons une joie, elle, non palpable, mais bien réelle. Une joie contagieuse. Nous sommes remplis de la joie de Dieu de vous accueillir ici parmi nous pour le baptême d'Agathe. Avec vos doutes et vos tristesses, avec vos questions, vous êtes habités de joie pour ce jour important, pour votre fille et pour toute votre famille. Et c'est cette joie qui, ce matin, nous réunit. car finalement nous n'aurions peut-être pas eu d'autres occasions de nous rencontrer dans la vie ordinaire. Et aujourd'hui est un jour extraordinaire. La joie de Dieu fait de nous des semblables. Avec nos différences, nos dissemblances, nos façons divergentes de vivre notre foi, nous sommes là côte à côte ce matin pour partager et recevoir le don de Dieu. Je termine en reprenant la lettre aux Hébreux. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous avons confiance en son amour pour Agathe, en son amour pour chacun de vous et pour tous les hommes et les femmes qui l'acceptent. Que chacun de nous puisse faire de la place à l'extraordinaire immatériel de nos vies, afin d'être capable de vivre au quotidien dans la joie, dans la paix et dans la confiance. Amen.